Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue au Désordre Mondial, je suis votre arbitre Rachel Marsden. Les Panama Papers, la plus grande fuite des données de toute l'histoire, 11,5 millions de documents, vient de nous donner un aperçu du monde de financement des élites. Les données obtenues à partir d'une fuite au sein du cabinet d'avocats panamaïen Mossack Fonseca, spécialiste de la création de sociétés écrans offshore, furent liées à des chefs d'État, des célébrités, des chefs d'entreprise et d'autres personnes riches un peu partout dans le monde, se cachant tous derrière des fonds élaborés. Une source anonyme a fourni les données à un journal allemand qui les a partagées avec le Consortium international des journalistes d'investigation, un ONG. Peu après la publication de l'information, les autorités de plusieurs pays ont lancé des enquêtes, dont la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas. Des comptes à l'étranger ont été longtemps utilisés pour commettre la fraude et l'évasion fiscale, pour stocker de l'argent provenant de la corruption et surtout quand cela provenait des contrats gouvernementaux qui touchaient au fric des contribuables, et aussi pour réaliser des investissements qui ne pouvaient pas être facilement remontés à la source. Il n'est pas automatiquement illégal de stocker votre argent dans un pays tropical connu pour un secret bancaire, tout comme certaines personnes lisent Playboy pour les articles et visitent les casinos de Las Vegas strictement pour la bouffe. Tant que les gains sont déclarés et les impôts payés, ça pourrait bien passer un compte offshore. Mais alors, pourquoi même prendre la peine d'en établir un? Eh bien, par exemple, lorsque vous êtes le roi Salman de l'Arabie Saoudite, dont le nom apparaît dans les fuites, et la taxation à 85% de l'industrie pétrolière de votre pays vous permet de vivre large sur les recettes fiscales, ben, vous aviez bien de bonnes raisons d'utiliser un compte offshore. Autre exemple, et restons toujours du côté de l'Arabie Saoudite parce que pourquoi pas. En 2001, un rapport du Parlement européen a noté l'interception en 1994 par la NSA, c'est l'Agence de renseignement électronique américaine, de correspondance entre l'entreprise aérospatiale européenne Airbus et le gouvernement saoudien. Selon le rapport, Airbus offrait des pots de vin à des fonctionnaires saoudiens afin de gagner un contrat pour le renouvellement de la flotte de Saudi Arabian Airlines. Après la découverte de ces pots de vin dévoilés par les Américains, la société américaine McDonnell Douglas a obtenu le contrat. Il serait naïf de penser que des pots de vin sont rares. Lors des relations traitant de milliards de dollars entre les grandes sociétés et les gouvernements. Mais ils ne font probablement pas ces dépôts à la caisse d'épargne locale avec un formulaire de remise de chèques étrangers. Alors, pourquoi ce système de finances occulte serait-il gravement problématique pour nous, les gens honnêtes, et pour tout le système? Bien, parce qu'il pourrit radicalement les règles du jeu et le libre marché. Les joueurs qui pensent qu'ils ont une chance équitable à faire du business sont disqualifiés a priori, tout simplement parce que certains joueurs louches payent des pots de vin à d'autres pourris qui sont confiants de bien pouvoir cacher le résultat. Lors de sa campagne présidentielle en Ukraine de 2014, Petro Poroshenko a promis que s'il était élu, il vendrait son empire de confiserie Rochen. Au lieu de cela, selon le projet de reportage de crimes organisés et de corruption, ces actifs ont été transférés à une société holding dans les îles Vierges britanniques, fournissant un abri fiscal pendant une période de grands bouleversements dans son pays. Et voilà ce qui est choquant par rapport à la fuite des Panama Papers. Il montre que plusieurs élites qui utilisent des comptes bancaires offshore sont soit des chefs d'État, ou bien ceux qui pourraient les influencer, soit par leurs dons politiques ou bien par leur report professionnel. Tandis que leurs concitoyens se battent pour arrondir leur fin de mois et sont susceptibles quand même de subir des contrôles fiscaux, ces gros chats utilisent des comptes offshore pour échapper aux impôts et cacher leur grande richesse. Il est peu étonnant Alors que nous voyons tant de troubles sociaux liés à la perception d'inégalité, surtout ici en France en ce moment, les gars en charge du gouvernement et de l'industrie envoient des emplois à l'étranger. Et maintenant, on peut tous bien voir aussi qu'ils envoient leur argent à l'étranger. En même temps, ils cherchent toujours à extraire des plébéiens le maximum de valeur. Ensuite, les groupes d'intérêts spéciaux, surtout ceux de la gauche, exploitent cette injustice, l'utilisant comme prétexte pour tenter d'introduire toutes sortes de propositions ridicules qui corrompent encore plus la relation entre le travail et la rémunération. Et ceci jusqu'au point où il devient quasiment impossible de virer un salarié paresseux ou incompétent. Aucun de nous vit dans un vide, même si certains riches et célèbres aimeraient en prétendre. Lorsque le capitalisme mondial est perverti par certains de ses plus grands praticiens, cela sert à armer la gauche pour le pervertir davantage de leur propre agenda. Et ce sont, comme d'habitude, les gens ordinaires qui finissent par tout payer. Avec moi aujourd'hui, Marc Germain. Il est spécialiste en diplomatie d'entreprise et animateur de réseaux internationaux dans le cadre de partenariats industriels. Il a fondé en 2008 un groupe de réflexion stratégique Reflexstrat, dédié notamment à la réussite et au rayonnement des entreprises françaises sur les marchés émergents. Bienvenue à l'émission, Marc Germain.
Bonjour, Rachel.
Alors, que faites-vous de cette fuite des Panama Papers?
Écoutez, la première question que je me pose, c'est de savoir dans quel contexte elles interviennent et à qui elles profitent. Le contexte réel, c'est que nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale qui s'est ouverte depuis le 11 septembre 2001. Il s'agit d'une véritable guerre de l'information. Dans ce contexte, il est fort probable que ces révélations servent avant tout aujourd'hui les intérêts américains, notamment par l'ouverture tardive d'un contre-feu aux révélations de WikiLeaks et à l'affaire Snowden qui étaient à leur seul détriment. Ces révélations Panama Papers correspondent à une phase connue de la guerre de l'information qui s'appelle la résonance, c'est-à-dire donner de l'écho à la propagande, alimenter l'argumentaire des réseaux d'influence et surtout détourner l'attention en mobilisant les forums de discussion. D'où notre émission aujourd'hui.
Oui, mais il faut que je me demande aussi, quand j'ai appris qu'il y avait cette fuite, j'ai allumé mon ordinateur, je suis allée sur le site qui avait un lien sur Twitter qui dirigeait tout le trafic vers l'enquête de ce site de ce ONG. Et là, j'ai découvert plusieurs mentions du président russe Vladimir Poutine. J'ai vu un article sur le site du Guardian, le journal britannique, avec une photo du président russe. Et là, je me suis dit, tiens, ok, il doit y avoir quelque chose au sujet du président russe. 11,5 millions de papiers, documents, il doit avoir son nom quelque part dans le dossier. Parce que quand même, j'ai vu qu'il y avait le passeport du président ukrainien. Alors, J'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait des tentatives de la cartographie du réseau du président russe, mais il n'y avait aucune mention actuelle de son nom dans 11,5 millions de documents. Alors là, je me suis dit, bon, je comprends bien ce qui s'est passé dans la salle de rédaction. Ça se passe comme ça. On se met autour de la table, on se dit, ok, il faut qu'on vende ce truc. On a bossé pendant quelques années sur tout ça. Alors, comment le vendre? Il nous faut un Dark Vador, quoi. Alors, c'est qui va être l'image de toute cette fuite? Bon, on va mettre le président russe parce que ça vend. Parce que même s'il y a 12 autres chefs d'État dans le dossier, qui figurent vraiment dans le dossier avec leur nom en plus, ça ne vend pas autant que ça. Surtout quand on pense, par exemple, aux leaders des pays arabes. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pourrait nommer d'une manière spontanée un chef d'un pays arabe? Personne. Mais tout le monde connaît Vladimir Poutine. Alors on met sa gueule sur le truc sans que son nom figure là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Écoutez, dans le ridicule, puisqu'il s'agit quand même là d'une considération totalement ridicule, on sort le nom de Vladimir Poutine parce que ça participe au Poutine bashing. Mais alors dans le ridicule, il y a le mieux, parce qu'à ce jour, ces révélations ne citent aucun nom d'Américain ni d'Allemand. Cela annonce-t-il un rapprochement entre l'Allemagne et les États-Unis ?
Non, mais enfin, c'est cité maintenant. Il y a quelques milliers de noms d'Américains. Dans les informations qui sont sorties tout à fait au début, il y avait des articles qui ne citaient pas des noms américains, mais maintenant, il y a un moteur de recherche qui se trouve sur le même site et on peut chercher par pays. Il y a des milliers de noms d'Américains, des milliers de noms russes, plusieurs centaines de noms provenant des autres pays. Alors, ça existe bien, les noms américains, mais par exemple, au Canada, il y a plusieurs noms chinois au Canada.
Je suis d'accord avec vous, mais quand je dis aucun nom, c'est aucun nom d'importance, aucun nom qui corresponde à une élite ou à quelqu'un qui fait partie d'un réseau de pouvoir. On a affaire, vous savez, à des contribuables, certes indélicats, mais qui utilisent des structures légales, favorisées par leurs conseils et par leurs banques, pour optimiser leur fiscalité. Mais quand on est en guerre, la phrase qui sauve, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et je vous ai dit que c'était une guerre de l'information. Et il faut quand même noter que ce consortium international des journalistes d'investigation est basé à Washington, qu'il égratigne effectivement un certain nombre de dirigeants étrangers et que cela sert particulièrement bien la politique américaine. Parce que, en fait, que se passe-t-il aujourd'hui ? Après les succès indéniables de la stratégie de Vladimir Poutine au Moyen-Orient et son influence grandissante dans le monde, il est évident que les États-Unis alimentent le Poutine bashing et mettent tout en œuvre pour ternir son image, quels que soient les artifices employés.
Moi, je vois mon rôle en tant que celle d'arbitre. Mm-hmm. Et je pense que c'est important, s'il y a quelque chose là-dedans, de le faire ressortir. Et je suis pas tout à fait prête à dénoncer les journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Peut-être ils avaient bien bon foi et qu'ils l'ont fait d'une manière honnête. Peu importe qui leur donne les fonds pour le faire et les ressources. Mais en même temps, oui, c'est vrai, je trouve que il y a une personnalité qui cherche peut-être des choses où ça cherche des poules là où ça n'existe pas.
En fait, on est face ici à une hypocrisie totalement perfide. Vous savez que les paradis fiscaux et les sociétés offshore sont des piliers de la mondialisation économique. Plus du tiers des investissements directs à l'étranger opérés par les multinationales américaines et européennes y transitent. Et la grande majorité des fonds d'investissement spéculatifs y sont enregistrés. Alors, les multinationales y hébergent, pour la grande partie d'entre elles, tous leurs profits concernant leurs brevets. Et la plupart des scandales financiers de ces dernières années ont démontré que ces mêmes multinationales y cachaient également leurs dettes inavouables. Cette affaire est au mieux une petite purge du système financier de la mondialisation. Et on surfe sur cette purge pour avoir des retombées politiques. En bref, Rachel, je suis prêt à parier avec vous que Panama Papers bientôt sera un synonyme populaire pour désigner le papier toilette. Parce que finalement, face à la pauvreté du procédé, à la faiblesse de l'attaque, les amis de Vladimir Poutine doivent bien rigoler et placent les Panama Papers au bon endroit.
Oui, mais je me demande aussi s'il y a des bonnes raisons pour avoir, à part la corruption et des choses comme ça, est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour avoir une telle structure ?
En fait, oui, c'est très simple. Les gens qui recourent à des sociétés offshore, ceux qui ont des vues honnêtes, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas masquer une prise illégale d'intérêt ou blanchir de l'argent sale, le font sur les conseils de leurs banques et de leurs grands cabinets conseils pour optimiser leur fiscalité de façon légale, comme cette structure le permet. Et elles le font aussi pour pouvoir avoir une souplesse administrative lorsqu'elles réalisent des investissements à l'étranger. C'est de l'optimisation de la fiscalité et des règles administratives. Et c'est, une fois de plus, ce ne sont pas les industriels ou les personnalités qui disent « Ah, je vais créer une panaméenne ». Non, c'est toujours sur le conseil du banquier ou sur le conseil de ce cabinet qui va permettre d'optimiser leur patrimoine.
Mais quand je suis jeune en France et je vois que les emplois s'externalisent de plus en plus, et maintenant je vois que l'argent des patrons s'externalise de plus en plus aussi, je deviens frustrée parce que moi je suis verrouillée par le système. Il faut que moi je paye les impôts, il faut que moi je travaille dans le système, que je suis complètement obligée de trouver un emploi soit dans le système français ou bien européen, qui devient de plus en plus pire pour des raisons que je viens tout juste de citer. Qu'est-ce que je fais? Je manifeste dans la rue. Et du coup, je suis susceptible aux suggestions des gauchos qui disent vous êtes victimisés de plus en plus et qui utilisent les raisons que je viens de citer pour attirer ces jeunes-là.
Rappelons à nos auditeurs aujourd'hui une réalité. En 2016, 1% de la population mondiale détient plus de 50% du patrimoine mondial. Autrement dit, les 1% des plus riches de la population mondiale possèdent plus de biens que l'ensemble des 99%. Donc, effectivement, les perdants de ces systèmes, ce sont effectivement l'immense population composée des pauvres et des indigents qui luttent chaque jour pour leur survie et qui sont loin de la préoccupation d'avoir à planquer de l'argent qu'ils n'auront jamais. Mais il y a une autre catégorie de perdants. Ce sont les actifs, ce sont les artisans, du succès de ces nantis panaméens. Ce sont leurs complices objectifs, mais néanmoins esclaves. Je parle des classes moyennes, qui, elles, ne peuvent jamais échapper à l'impôt. Alors, effectivement, il y a une frustration.
Alors, que dit-on à ces salariés-là? Vous êtes patron d'une boîte qui fait du conseil dans la diplomatie de l'entreprise. Qu'est-ce que vous dites aux salariés qui sont frustrés par ce système-là?
Il y a un gros problème de répartition des richesses, c'est clair aujourd'hui. Les grands gagnants du système, ce ne sont pas finalement les utilisateurs finaux, je parle de ces sociétés ou ces hommes riches, mais ce sont surtout les banquiers internationaux. On a promis, après l'affaire des subprimes, et tous les hommes politiques ont promis une réforme des systèmes financiers. En fait, cette réforme n'a jamais eu lieu. Et quand on joue au grand casino mondial, le grand gagnant, ce n'est jamais le joueur compulsif. Ce n'est pas toujours le propriétaire du casino, mais c'est toujours, toujours le banquier. Donc, tant qu'il n'y aura pas une réforme profonde du système financier international, avec l'interdiction, par exemple, des plateformes offshore, parce que les premiers utilisateurs des plateformes offshore, ce sont les banques elles-mêmes. C'est une réalité.
Oui, mais pourquoi il y a tant de noms d'individus?
Eh bien, parce que vous l'aviez dit vous-même en introduction, ça fait vendre. Ça fait vendre. On est dans une ère de la communication et de la pipolisation. Les industriels sont les stars d'aujourd'hui.
Oui, mais en même temps, on peut pas dire, je ne suis pas responsable pour le fait que j'ai des fonds offshore parce que c'est ma banque qui me l'avait conseillé. Non, mais parce que vous avez voulu avoir des bénéfices qui n'existent pas au sein de votre pays. Mais et ça veut dire quoi, les bénéfices? Vous parlez des bénéfices administratifs, c'est plus flexible. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas en France?
Écoutez, la règle, ou plutôt l'absence de règle qui est prônée par les tenants du libéralisme tous azimuts, favorise ces systèmes. Et donc, pour en sortir, il faut tout simplement changer les règles. Et pour en revenir aux victimes de ces pratiques, qui sont les gens qui travaillent et qui sont dans l'obligation de payer leurs impôts, eh bien, finalement, on dit que les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent. Or, tous ces salariés, tous ces patrons de PME ont le droit de vote aujourd'hui. Donc, à eux de maîtriser leur destin en élisant des personnalités qui vont mettre en application les promesses qu'ils ont faites.
Mais le problème, c'est que même dans une démocratie, quand il y a quelqu'un qui veut changer le système autant que vous l'expliquez là, ils sont qualifiés d'extrémistes et ils sont rejetés a priori. Alors... comment changer un tel système? Moi, en tant que consultante indépendante qui est en France maintenant depuis 7 ans, quand je parle avec un PDG d'une boîte française, il dit toujours, il faut que je parle avec mes salariés, il faut que je vérifie auprès de quelconque avant de pouvoir agir. Moi, je trouve ça affreux. Et c'est toute la raison pour laquelle le système en France ne marche pas. On n'apprécie pas les gens qui veulent bosser d'une manière libérale. On les traite de deuxième classe, quoi.
Alors, il y a une réalité française qui est différente des réalités que l'on retrouve dans nos pays voisins. Prenons déjà les principes de base. La bonne santé financière d'un pays se résume par l'excédent de sa balance commerciale. Or, à l'heure de la mondialisation, les entreprises, toutes les entreprises, ont le devoir d'exporter. Il faut donc qu'elles satisfassent trois impératifs. Le premier, c'est de produire ce qui se vend. Le deuxième impératif, c'est d'être compétitif. Et le troisième impératif, c'est d'innover. Alors, bon... La réalité de la France, c'est quoi? C'est que le premier employeur, c'est la fonction publique, avec plus de 5 millions d'emplois. C'est vraiment pas un modèle que les étrangers souhaitent nous acheter. Mais il y a une autre réalité. Avec un cumul d'environ 14 millions de salariés, les chiffres ont de l'importance. Ce sont les PME et PMI françaises qui emploient le plus de monde. Il y en a plus de 3 700 000 qui emploient moins de 250 salariés. Et l'emploi dans les PME correspond toujours à la création de valeur. Néanmoins, et c'est ça qui est important et qui crée la particularité française, c'est que ces PME françaises qui exportent sont très rares. Elles représentent moins de 5% de l'ensemble et la France continue inexorablement à perdre des parts de marché à l'export.
Et en même temps, il y a des jeunes qui veulent tous bosser dans le secteur public, qui veulent être fonctionnaires. Ça ne change pas trop en France, non? C'est toujours comme ça que les jeunes ne veulent pas bosser dans le privé?
Il y a aussi un autre facteur important. Il y a effectivement la fonction publique et il y a les grosses entreprises multinationales qui composent le CAC 40. Et ces grosses entreprises fonctionnent comme des administrations. Là, l'emploi n'est plus synonyme de création de valeur comme dans les PME, mais c'est une variable d'ajustement. La flexibilité nécessaire à ces entreprises multinationales entre toujours en contradiction avec le besoin de sécurité des employés.
Alors, aujourd'hui, si je suis un des jeunes qui manifeste dans la rue contre la loi de travail, c'est quoi mes options? De continuer à manifester ou bien est-ce qu'il faut accepter une réalité? Et si oui, c'est laquelle?
D'une part, et c'est très symptomatique, on fait descendre la jeunesse dans la rue et quand ils manifestent, ils le font souvent sans savoir exactement pourquoi. Et quand ils le savent, c'est souvent pour la mauvaise raison. Le constat, c'est que dans ce monde globalisé, la France est pénalisée par une législation lourde, complexe et totalement inadaptée aux réalités économiques.
C'est qui gère ces manifestations? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière?
Aujourd'hui, oui, on peut dire que les syndicats gèrent ces manifestations, les syndicats d'étudiants, ils sont assez actifs. D'ailleurs, le syndicalisme, c'est un vrai problème en France. Pourquoi? Parce que il n'y a que 7% des salariés qui sont syndiqués et ces syndicats finalement ne représentent personne ou pas grand monde. Et il y a une autre particularité française, c'est que moins vous êtes représentatif, plus vous gueulez fort.
Et ce qui m'étonne aussi, c'est le fait que maintenant on a un gouvernement socialiste, un gouvernement de la gauche, et qui fait des réformes de la loi de travail gauchiste. Et il y a quand même des jeunes et des syndicalistes qui descendent dans la rue.
Oui, on est en pleine dissonance. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans nos démocraties occidentales, il y a une absence totale de stratégie, de vision politique. On gouverne au sondage. Or, dans nos démocraties, on a une élection majeure tous les 2 ans et demi. Et donc, le personnel politique, celui qui gouverne, a les yeux rivés sur cette échéance électorale. Donc, on ne prend pas de mesures impopulaires pour garantir cette élection. Et finalement, on ne fait pas le travail. Et donc, le cocu de l'histoire, c'est toujours l'homme qui met ou la femme qui met le bulletin de vote dans l'urne. Pourquoi? Parce qu'il est assuré qu'à partir du moment où il est élu, celui qui l'a élu, qui l'a mis au pouvoir, fera une politique totalement inverse à celle qu'il a promise. C'est une constante, qu'on soit de droite ou de gauche. Un homme qui est élu et qui est de droite fait une politique de gauche et à l'inverse, les socialistes font une politique de droite.
Alors, c'est possible de plaire aux syndicalistes?
Oui, il faut certainement une réforme du syndicalisme en France parce que il faut absolument que les syndicats soient représentatifs. Dans toutes les économies qui fonctionnent, les syndicats sont forts. Ils sont forts aux États-Unis, ils sont forts en Allemagne, ils sont forts dans tous les pays qui ont une balance du commerce extérieur excédentaire.
Mais est-ce que c'est leur politique de gauche qui fait qu'il y a tant de problèmes? Parce que il me semble que pour changer... Les syndicalistes, il faut faire des transplantations de cervelle, quoi.
Il y a un problème qui est beaucoup plus profond en France, c'est que l'université française fabrique des cerveaux formatés. Elle fabrique principalement des ingénieurs et des gestionnaires, des polytechniciens et des énarques. Or, ces cerveaux formatés ne peuvent prendre en compte que les choses quantifiables. Ils sont assez étrangers à tout ce qui compose le soft power. Ils n'ont pas de vision. On est en pleine dissonance. Les mots n'ont plus de sens. Je vais prendre un exemple très précis. Quand l'ingénieur, le polytechnicien, se retrouve à la tête d'une entreprise, il veut absolument vendre ce qu'il produit sans se soucier de savoir ce qu'attend vraiment le marché. Et quand c'est le gestionnaire, l'énarque, nous sommes toujours en France, qui dirige une entreprise, sa préoccupation majeure est de ne prendre aucun risque. Alors imaginez, Rachel, que certains cumulent les deux formations. Ils sont polytechniciens et énarques. Dans leur carrière, ils passent souvent du public au privé sans aucun souci, ni de déontologie, ni de conflit d'intérêts. Mais le pire, c'est qu'alors même qu'ils vénèrent l'argent, l'énarque comme le polytechnicien ont structurellement le mépris de la chose commerciale. Le commerce serait une activité subalterne, voire sale. On sait que le poison pourrit toujours par la tête, alors à moins d'une réforme profonde des cycles universitaires qui fabrique des élites formatées incapables d'imagination, je vous le dis très clairement, Rachel, dans ces conditions en France,
rien ne changerait.
Pas fini, ni avec le déficit de la balance commerciale, ni avec le chômage, non, malheureusement.
J'en suis sûre. Marc Germain, spécialiste en diplomatie d'entreprise et animateur de réseaux internationaux, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir rejoints pour l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur sputniknews.com ou bien desordremondial.com.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.